bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour à tous et bienvenue dans la bande originale sur France Inter avec Nagui, Daniel Morin, Tom Villa, Guillermo Guiz et nos invités aujourd'hui sont Nicolas Bedos et Fanny Ardant.
Tu continues ?
Bah non, bah ça va, j'ai
j'adore
donné là.
Non, mais arrête.
J'ai l'ouverture.
Qu'est-ce qui se passe ? Bonjour Nicolas, merci de venir à ce micro. Tout va bien Nicolas ?
Ça va très bien.
On est ravis de vous accueillir.
Ravi d'être là.
D'autant plus ravis, à la base, évidemment, on vous aime, mais en plus, il y a cette...
Ce film.
Ouais, c'est une œuvre, j'allais dire un objet, parce que c'est vrai que ça reste, c'est de la pellicule, c'est de la magie, c'est du rêve, mais c'est surtout une œuvre et une réussite. Sincèrement, je vous le dis dès le début, comme ça, il n'y aura pas de suspense jusqu'à la fin de l'émission. La Belle Époque,
Il y a le public qui fait ouais, merci.
Un film formidable que vous avez porté en vous pendant combien de temps? Parce que il est compliqué dans son écriture, autant il est simple et agréable à regarder, autant on se dit, il y a du boulot derrière dans l'écriture. Bah oui, il y a beaucoup de travail. Oui.
Mais c'est compliqué à voir, c'est quelquefois.
Non, c'est
un peu compliqué à voir.
Merci Daniel, la petite touche d'aigreur manquait à cette émission.
Je suis là pour ça.
Non, en fait, je pense que ça n'intéresse personne d'entendre parler trop de nos labeurs, mais c'est vrai que c'est pénible parfois de devoir mettre en mots et en images une pensée quand même, en effet, complète. C'est de la rendre à peu près comestible. Pour faire une réponse un peu philo, je dirais toute ma vie, parce que je pense que j'ai jamais rien fait de si qui parle d'autant de sentiments, d'autant de situations, d'autant de personnages que j'aime et que j'ai envie de faire vivre aux gens.
Et votre rapport avec le temps, parce que ça aussi c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement sous votre plume. La Belle Époque, alors je sais pas si c'est le pitch qui va vous convenir, mais l'idée la plus forte, c'est de se dire, et si on pouvait, si une société pouvait vous permettre de revivre l'année, le jour, le mois, peu importe, l'anniversaire, la rencontre que vous rêvez, dont vous rêvez, en tout cas, que vous avez déjà vécu, mais qu'il reconstitue comme au cinéma, c'est-à-dire avec le décor, avec des comédiens, avec des figurants, avec les dialogues, avec même la météo, la lumière, la musique ambiante, les parfums, les odeurs, tout ça.
Oui, on peut être ce qu'on veut.
On revit ça. L'idée de cette boîte, je suis sûr que ça fera un carton en plus si cette boîte
Guillaume
existait.
Canet, qui joue d'ailleurs dans le film le type qui monte la boîte, Guillaume Canet a très envie de monter le business. Il a quelques idées.
Mais c'est vrai que c'est la vie comme une grande société de production. Et parfois, quand on vit.
Une petite société de production. C'était vraiment un truc sur l'artisanat. Moi, je voulais montrer justement. C'est pas Black Mirror.
Mais c'est vrai que quand on vit des moments importants dans sa vie ou quand il y a plein de choses qui s'alignent, on se demande s'il n'y a pas des figurants, s'il n'y a pas des gens qui ont été employés pour créer tout un univers autour de nous, tellement c'est proche de soit ce qu'on a vécu, soit c'est assez un moment assez fabuleux. Donc cette idée-là, elle vous vient d'où? Un jour, vous avez rêvé fortement.
En fait, j'avais envie, l'idée, je crois que c'était de réenchanter un homme qui s'appelle Victor, qui est joué par Daniel Auteuil, et qui est un peu nos parents, qui est un peu nous, les projections de nous-mêmes, tout ça. Et je en croise beaucoup des Victors, en fait. Et d'ailleurs, je me rends compte en accompagnant ce film de pays en pays, de festival en festival, à quel point il y a des Victors. Oui. Et ce type, il est un peu dépassé par la société qu'on vit, comme je pense qu'on est toujours nostalgique d'une autre époque. Mais c'est vrai que celle qu'on vit là, elle va particulièrement vite, elle est un peu déroutante.
Il est au bout de l'histoire de son couple.
Il est au bout de tout, il est au bout de ça, il est au bout de l'histoire de son amour, il est au bout du rouleau. Il perd son job, ça marche plus. Fanny Ardant qui vient de rentrer dans ce studio.
J'ai souhaité une entrée discrète.
Et j'avais envie de l'idée c'était de réenchanter cet homme en le faisant repartir en effet dans une époque un peu plus généreuse avec lui, un peu plus tendre, l'époque où il rencontrait Fanny Ardant, comme je la rencontre chaque jour en ce moment.
Elle se déshabille dans votre dos, ne vous retournez surtout pas, Nicolas, surtout pas.
Et du coup, le faire plonger dans repartir dans un passé qui était un passé plus amoureux, plus simple, oui, ça commence, plus confortable ça commence... pour lui donner envie de réaffronter le présent.
C'est ça, parce que ça commence par une vanne entre guillemets quand on lui dit à quelle époque aimeriez-vous vivre, il dit à la préhistoire et tout le monde attend de savoir pourquoi la préhistoire. Et là, ça décoche une de vos flèches parce qu'on on reconnaît dans les dialogues votre écriture, on reconnaît à la fois les vannes, le ton grinçant, mais toujours avec un fond sincère et touchant. Lui dit, bah c'était à l'époque où
on faisait encore l'amour,
on faisait encore l'amour avec ma femme. Ça, c'est d'une violence inouïe.
Mais j'en ai observé beaucoup.
Et d'ailleurs, quand
moi,
ils se parlent entre eux, ils sont d'une violence dingue.
Parce que le personnage de Fanny, en fait, c'est pas de la cruauté gratuite. C'est vrai que Fanny est particulièrement drôle. D'ailleurs, les gens rient hein, quand Fanny insulte Daniel dans la salle, parce qu'elle lui dit les pires horreurs. Je crois qu'elle a envie que son couple touche le fond pour que justement il se réveille. Elle en parlera mieux que moi, mais pour qu'il y ait une sorte de résurrection possible. Elle casse tout. Elle le tue d'une certaine
façon.
Elle
est horrible cette scène. Elle est terrible.
Et Fanny, d'ailleurs, parfois se défendait de jouer de telles outrances. Mais en fait, c'est une femme qui est aussi paumée que lui, parce qu'elle sent bien que la passion les a désertés, et elle veut pas se noyer dans le passéisme de cet homme. Ce type qui critique Internet, qui critique tout, qui regrette son kiosque, qui est...
On va rappeler que c'est Michel Sardou. Hein,
rappeler que c'est un dessinateur de bande dessinée qui a été viré...
Qui vend plus, qui ça marche pas.
Mais qui a été viré par son pote, qui est un très bon ami
de sa femme. Très
ça, c'est des histoires que j'ai glanées qui sont vraies. Hein. Le dessinateur qui est viré, non pas par l'amant de sa femme, parce que là, c'est le côté un peu comédie du film, mais le type qui est viré par un mec parce qu'il met plus de dessins sur Internet, parce que le dessin, ça marche plus des masses. Tout ça, c'est des histoires vraies. C'est un puzzle de choses que j'ai un peu glané autour de la presse écrite. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la presse. Il y a un bouleversement qui n'est pas sympathique hein, en ce moment.
Fanny Ardant, bonjour. Merci de venir nous parler de ce film. Vous la décririez comment, cette femme, justement? Est-ce que vous pensez qu'elle cherche... Parce que moi, je n'ai pas perçu ça au début, hein, qu'elle cherchait à revivre ou à faire renaître des cendres à un couple qui était en érosion.
C'est la fin du film qui porte le sens de son début.
Oui, mais on va pas
non plus
le
raconter.
Bah, gagnons du temps.
Mais est-ce qu'elle est en train de justement de vouloir passer à autre chose, d'avoir le sentiment d'être au bout de son histoire d'amour avec son mari?
Non, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas se résigner, parce que tout le monde se résigne en disant c'est la vie. Est-ce qu'elle a vécu 40 ans avec cet homme? Que, en fait, inconsciemment, elle aime toujours, mais que, comme a dit Nicolas, elle veut réveiller. Parce qu'à peine l'a-t-elle mis.
Donc c'est votre portable hein, qui... Oui, c'est quelqu'un qui...
Il se met à sonner quand on dit réveiller.
C'est
quand même bien foutu.
C'est quelqu'un de technologie. Fanny Ardant, c'est un sans faute pour l'instant.
Fanny Ardant, il y a un monsieur bizarre et barbu qui fouille la route sec. Hein.
Oui, oui, mais c'est Fanny Ardant et elle a loin.
C'est ça. C'est ça.
Non, pardonnez-moi.
Tout va bien.
Non, mais parce qu'en plus, on s'est trompé d'horaire. Donc c'est pour ça que je suis en retard.
Vous ne devriez pas être là, vous voulez dire. Et quelqu'un vous attend ailleurs?
Non,
je
dormais.
Bon, écoutez, on va...
Nicolas, il n'est pas à vous ce portefeuille.
Oui, mais elle a confiance. J'ai cessé de la voler à 10 ans.
Je pense que dès qu'elle est méchante avec lui...
C'est de l'amour.
Et que dès qu'elle l'a jeté, c'est la première chose qu'elle dit, c'est méchante. Donc elle est très consciente de ce qu'elle fait.
Ouais. Elle est jolie cette scène, quand vous frappez sur les joues, méchante, méchante.
Donc... ce n'est pas les amoureux de Péné, mais elle a quelque chose de... Elle se bat pour que les choses restent vivantes. Elle préfère détruire que subir.
Et puis son fils a du succès. Elle est elle-même à la tête d'une boîte qui
jouée
fonctionne.
Jouée par Michael Cohen.
Michael Cohen, qui est délicieux dans le film. Et elle veut s'accrocher...
Pourquoi dans la vie, non?
Ah bah si,
Non, mais tu rajoutes qu'il
est exactement comme dans le film, justement. Alors vraiment, je le dis aux auditeurs, ils s'en foutent sur le ventre. Mais Michael, voilà, la personne la plus en adéquation avec son personnage. Voilà, je le propose à toutes les familles, s'ils veulent l'adopter, etc. C'était quelqu'un de... Et il fera pas d'histoire. Wow,
oui, il est propre.
Oui,
en plus, il est très bon.
et donc, Marianne, elle a devant elle la jeunesse qui est en train de s'intéresser à elle, parce qu'elle a monté un site de psychanalyse en ligne, etc., dont elle doute sans doute elle-même de la véritable, authenticité, performance.
Sincérité,
Sincérité. Mais voilà. Et elle a cet homme, tous les soirs, qui vétupère contre
tout. Il est un peu chiant, faut le dire.
Et elle se dit, j'ai d'un côté la mort, et j'ai de l'autre la vie. Et donc, elle s'accroche de façon parfois un petit peu volontaire, un peu excessive à la vie.
En tout cas, le point de départ et cette idée de cette société tenue par Guillaume Canet et Michael Cohen de reconstituer un moment de la vie et qui remet un coup de jeune à Daniel Auteuil et ça commence à trotter aussi dans la tête. Il y a une scène, alors je suis totalement d'accord avec vous, on peut malheureusement pas dévoiler la fin, mais il y a une scène qui est totalement bouleversante, celle où vous êtes tous les deux attablés au restaurant, Fanny Ardant, Daniel Auteuil, elle est dinguissime, cette scène, à pleurer.
Je peux vous dire que nous, on a pleuré.
Non, mais nous aussi. Je me demande, c'est pas un plan séquence, un moment, tellement...
Il y a eu deux prises.
Voilà, on voit pas de montage et on voit la montée d'émotion.
C'est une leçon de vie, et c'est un de mes plus beaux souvenirs, si ce n'est mon plus beau souvenir de cinéma. J'ai fait que deux films, mais je peux vous dire, en fait, vous savez, un tournage, c'est pas toujours romantique, comme on peut se le figurer. On n'est pas en train de chercher, les gens croient souvent qu'on fait de l'art. Et parfois, on en fait, il y en a qui ça se balade. Hein. Mais parfois,
la technique,
le temps, l'argent, ça bouffe beaucoup. Et de temps en temps, je dis souvent que j'ai l'impression de colorier les dessins que j'ai fait 3 mois avant. Il y a quelque chose d'un peu fonctionnel. Je suis plus chef de chantier que poète, moi, parfois, sur un plateau.
Et là, c'est un moment de grâce.
Et ben là, on était là. Et c'est vrai que c'est Fanny Ardant dans une sorte de... C'était du sur-Fanny Ardant. C'était magique, c'était toute sa vie, toute son émotion. On avait l'impression de lire entre mes lignes des répliques dans ses regards que je n'avais pas écrites et qui étaient encore plus belles que les miennes.
Il faut dire que vous lui offrez un rôle qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que vous lui offrez un rôle merveilleux. Moi, vous savez à quel point je vous aime, Fanny. Mais vraiment, là, quand je vous vois dans ce film, je me dis, c'est dingue. Ça faisait tellement longtemps que je vous avais pas vu dans un rôle aussi exceptionnel.
Mais on n'y croyait plus,
Fanny. Parce que moi, je vous vois régulièrement.
Merci, Nicolas.
Non, parce que moi, je vous vois régulièrement au théâtre. Et je vous vois sur scène. Je vous ai vu récemment dans La Passion Suspendue. Je vous ai vu dans Hiroshima, Mon Amour. Et vous êtes toujours aussi fantastique. Mais là, au cinéma, tout d'un coup, il y a quelque chose qui moi, m'a ému aux larmes, tout d'un coup.
Vous le sentez ça quand au moment où on joue une scène, surtout quand il n'y a que deux prises, vous sentez qu'il se passe quelque chose ?
Merci Fanny Ardant.
Non, il y a toujours cette magie de jouer, et moi j'étais tellement heureuse de jouer avec
Daniel Auteuil.
Daniel Auteuil, qui pour moi est un grand acteur.
Clairement. Ouais.
Donc tout d'un coup. C'est vrai que quand disait Nicolas, il y a la technique du cinéma, il faut être dans un cadre, partir au moment où on vous dit de partir. Mais c'est plutôt... Je sais pas comment dire tout ça.
Non, ce que l'on ressent, c'est que au début, c'est totalement fou de passer autant de temps à parler de cette tête, mais quand vous la verrez, vous comprendrez pourquoi elle est essentielle.
Bon, contrairement à Nagui, j'aimais tout le film.
Dans le film, c'est que au début de cette scène, on se dit c'est Fanny Ardant, elle est en train de tout embarquer. Et puis d'un coup, il faut être deux quand même pour jouer, surtout dans les yeux l'un de l'autre comme vous êtes en train de jouer cette scène-là. Et les yeux sont très importants.
Oui.
Dans cette scène-là, et vos yeux sont en train de basculer, et puis on se rend compte que les yeux de Daniel Auteuil sont aussi en train de basculer.
Parce qu'il regarde Fanny.
Exactement.
Aussi.
Et les deux, vous partez comme ça, et on ne peut être que embarqué.
Oui.
Et même là, de le redire, ça me redonne envie de pleurer.
Mais c'est un dialogue qui est quasiment incroyable. Sans faire le cuistre, qui est un peu méta cinéma, comme disent les relous de la littérature. On est un peu hors script là. Il se passe quelque chose entre deux acteurs.
Ouais, deux êtres humains.
Ouais,
c'est ça.
Oui.
Ouais.
C'est pour ça, c'est vrai. Moi, je trouve toujours que la seule chose intéressante dans un acteur, c'est le regard. Il pourrait parler faux, il pourrait ne pas dire son texte, mais tout est dans le regard.
Et puis c'est un moment, même moi en l'écrivant, j'étais déjà dans l'espoir de cette émotion, parce que c'est un moment où Marianne, qu'on a vue si...
Hop, dites pas tout.
Dure.
Non, je vais pas tout dire.
Ah, okay, d'accord.
Merci.
c'est un moment où ça bascule. Il faut pas dire dans quel sens ça bascule.
Ce que je peux dire sans dévoiler rien, c'est que il y a une armure qui se découpe sous nos yeux. Cette femme a décidé de dire une autre vérité dans le film. Et cette autre vérité, Fanny l'accompagne Avec talent.
Voilà.
Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Doria Tillier, on n'en a pas assez parlé. Guillaume Canet, on n'en a pas assez parlé. Denis Podalydès, enfin, il y a Gérard Ditti, il y a un casting de fou. Michael Cohen, qui est propre, donc je le rappelle aussi, c'est très important. Ses parents sont très fiers, en tout cas, de ça.
Mais c'est aussi une comédie, hein. Parce qu'on a parlé de. C'est vrai que le film aborde j'espère, vous transmettra, je parle au public, des choses un peu émouvantes, mais.
Il y a des vannes cinglantes, oui.
Mais voilà.
Il y a des vannes cinglantes. Il y a l'assistant, je ne sais pas.
C'est
je
de faire
je
ça sais avec pas quel est
le comédien qui joue à côté de Guillaume Canet. Mais
Bertrand Poncet.
Alors, il est.
La lunette, il est oui. Giro, là, qui veut, qui veut participer.
Oui.
Il a des dingues. Oui,
il veut participer.
Il a des répliques incroyables. Le film qu'il faut absolument voir, qui sort en salle aujourd'hui, La Belle Époque, signé, porté par Fanny Ardant et Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, et signé par Nicolas Bedos, qui est notre invité. On va évidemment continuer d'en parler, mais d'abord.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Bah, des questions concernant nos invités. Encore plus facile quand on sait que Fanny Ardant ment à toutes les interviews.
Oui, c'est vrai.
Donc, elle ne saura même pas ce qui est vrai ou faux. Quel chanteur a chanté pour Fanny Ardant, mais toute seule ?
Bachung.
Oui. Ouais, d'accord, ok. Est-ce que ça, au moins, c'est vrai ou pas, Fanny Ardant ?
Oui, c'est vrai.
Ah, ça, c'est vrai. C'est sur le tournage du clip, c'est ça ?
Madame Je comprends Rêve. Pas votre question.
Est-ce que c'était sur le tournage du clip ?
De Madame Rêve.
Non, c'était pas sur le tournage.
Oui, là où il y a le manège qui tourne.
Oui.
Voilà, c'est ça.
C'était le clip de la chanson.
Oui.
Il y avait pas de piège dans ma question. Pour une fois que j'ai fait une question courte, t'as remarqué. Finalement, ça sert à rien.
Finalement, non, continue comme tu fais, Nagui.
C'est l'effet de surprise.
Des grandes questions qui noient tout le monde. Tu fais la réponse et tout le monde est
content. Et pourquoi lui avez-vous dit chantez pour moi ?
Ah, je lui ai pas dit ça.
Ah.
C'est comme quelqu'un qui vous écrit une lettre, on lui dit pas écris-moi.
Alors, la légende voulait que vous lui avez dit chantez pour moi, mais si c'est pas le cas, tant mieux.
Mais qui dit ça ?
On vous donnera le nom tout à l'heure.
Ouais. Non, mais je dis tout de suite, moi c'est Paris Match. C'est Paris Match. Vous aviez tourné un film avec lui.
J'ai mis des années à gagner un peu la tendresse et la douceur de cette femme. Tu vas pas tout gâcher en une matinée.
Je pensais pas faire du mal en parlant d'Alain Bachung. J'aime ce monsieur.
Oui, parce que moi j'ai tourné avec lui un film de Paul Muret qui était rien que des mensonges. Et il faisait mon amant.
Et il vous. Alors, c'est le moment où il a chanté pour vous, c'était sur le tournage du film ou c'était à l'occasion du tournage du clip ?
À l'occasion du tournage du clip.
De Madame Rêve. Et que retenez-vous du talent d'Alain Bachung ?
Le pouvoir des mots. Le pouvoir des mots, il pouvait, comme ça, rendre quelque chose de banal, poétique.
Pourquoi, à l'âge de 20 ans, Nicolas Bedos n'a pas pu réaliser son tout premier film ?
Il avait dépensé tout l'argent.
Non.
Parce qu'il était...
Il était en prison. Non.
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 Parce qu'il n'avait pas...
Le casting,
il manquait, peut-être. Il manquait des acteurs.
Il y a un problème de casting. Absolument, problème de casting. Je vais prendre la réponse de Tom. C'est-à-dire que l'actrice principale vous abandonne.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'ai mis derrière, 16 ans à remonter sur ce cheval.
Mais ça ne pouvait être... Que cette actrice en question ? Pourquoi ?
Non, parce que vous savez, c'est une industrie également, et il faut quand même avoir le soutien, surtout que j'étais totalement inconnu.
Il faut des noms bankable que les producteurs acceptent.
Et c'était une personne qui avait dit oui, mais elles n'étaient pas nombreuses à ce moment-là. Et donc, sans elles, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. On avait plus de. Quand on perd parfois une actrice ou un acteur, le métier est fait de telle sorte que c'est comme si on perdait les financements.
Et dans ce cas-là, on en veut à cette personne ou on peut comprendre qu'elle soit inquiète de ne pas venir sur un premier.
J'ai acheté une poupée.
Avec des petites aiguilles, on a fait
des aiguilles. Puis je me suis amusé pendant quoi, 2-3 ans. Et voilà.
C'était pas Fanny Ardant.
Alors, cette personne, je dois le dire, est décédée un an plus tard et ça n'est pas.
La poupée.
Moi, c'est vrai qu'elle est tombée dans des elle est tombée dans des escaliers en effet, mais non, je déconne. Non, elle va très bien. Malheureusement.
T'imagines.
Nagui commençait à pleurer.
Et ça veut dire que ce serait impensable de lui proposer un rôle.
Je voulais juste dire voilà totalement le genre de vanne que l'on retrouve aussi dans La Belle Époque dans le
coup.
C'est exactement, c'est totalement dans l'esprit.
Ça veut dire que vous êtes rancunier au point de jamais plus lui proposer quoi que ce soit.
Moi, je suis un colérique, je suis absolument, je peux être odieux. très peu de temps.
Vous auriez non, mais vous pourriez avoir raison d'être rancunier sur cette histoire-là.
Ouais, ça fait mal. Ouais.
C'est pas.
Oui, mais la vie est faite de telle sorte qu'à un moment,
son karma la punira toute seule, c'est ça.
Vous savez, quand on a été pris, par exemple, pour la petite anecdote, parce que je suis assez transparent, c'est un de mes défauts. Mais le film a été sélectionné à Cannes. Mm. Vous savez, Cannes, ça représente beaucoup de choses dans l'intelligentsia de ce métier. Et c'est vrai que c'est une sorte de petite décoration qu'on nous met tout d'un coup à la boutonnière. J'ai croisé à Cannes.
Même quand c'est hors compétition, selon
oui, t'es hors sélection officielle, ça change tout. Il y a des regards qui se modifient instantanément.
C'est fou.
On reçoit des textos de gens qui vous serraient pas la main.
Qui n'avaient pas votre numéro.
Mais oui, on connaît tous un peu ces choses-là. Mais c'est spectaculaire et caricatural. On a l'impression d'être dans une comédie de Balzac. Enfin, dans des romans du 19e ou dans Bellamy. Et notamment une personne.
Donc Maupassant.
Oui, de Balzac. Et après, j'ai cité Bellamy.
Oui, c'est ça.
Oui. Quand Nagui commence à vous reprendre sur votre culture, c'est qu'on est vraiment tombé très.
Il est 11h24, faut noter l'heure aussi. Hein, parce que
vous avez noté que Nicolas Bedos n'était pas rancunier.
De toute façon, j'étais sa tête de turc dans tous ses papiers.
Oui, de façon très excessive d'ailleurs. Bref, en tout cas. Et j'ai croisé notamment une personne que je ne citerai pas d'ailleurs parce que je ne suis pas rancunier, mais qui est venue me faire des mamours à Cannes. Et bon, j'ai bu des coups avec. Hein, et je me suis dit, allez, avançons.
Quelle traînée, ce Pierre Lescure. Hein.
Fanny Ardant trouve très bien que les autres le fassent, mais elle ne le fait pas.
Envoyer les vœux ?
Non. Mais en tout cas, il s'agit de faire quelque
souhaiter
chose
anniversaires.
Par, dans Dormir. Une enveloppe. Oui. Dormir, non.
Écrire ?
Non.
Payer ses impôts ?
Non.
Dans une enveloppe ?
Oui, dans une enveloppe. Elle trouve très bien que les autres le fassent.
C'est pour une fête, un anniversaire, un baptême.
Non, mais on est convoqué en tout cas à le faire.
Payer ses impôts.
Voter.
Exactement.
Voter, oui, t'as raison.
Exactement.
Ouais, vote obligatoire. Quand j'ai quelque chose d'intelligent, ça fait vraiment mal au cœur.
Non.
Ah bien.
Non. Il parle français.
Guillaume, on est encore sous le choc. C'est
on ne soupçonne pas toujours.
Vous dites c'est très bien que les gens votent, mais vous n'y croyez plus à la politique et aux promesses.
Mais j'ai jamais cru au vote. Parce que j'ai toujours pensé que les discours politiques étaient faits pour ça, pour obtenir des votes. Mais je ne fais pas de prosélytisme, parce qu'où irait la démocratie. Mais moi, je ne veux pas me dire, j'ai cru à cet homme et il m'a déçu. Je ne veux pas. Mais je préfère être toujours contre.
Il y a deux choses. On peut croire au vote et ne pas croire au discours politique. C'est deux choses séparées. Le principe du vote.
Parce que
le principe
toutes du vote les promesses faites et dites, jusque par démagogie, faire croire au pauvre électeur que tout ça sera fait, c'est une honte. Donc, je ne veux pas faire partie de ceux qui ont cru.
Mais ne pas voter serait laisser passer des odeurs nauséabondes aussi.
Ah non, mais moi, comme je vous dis, je suis quand même assez rare. Tout le monde croit que... Moi, je ne suis pas un bon citoyen, parce que ça fait partie de la charte, il faut voter. Mais moi, je l'assume, mais je ne fais pas de prosélytisme. C'est-à-dire, quand quelqu'un va voter, je ne lui dis pas « qu'est-ce que tu fais ?» Vas-y, mon vieux.
Vous avez déjà été sollicité pour soutenir des campagnes électorales ou venir assister à des meetings ?
Non, mais je me souviens, un jour, moi, j'aimais beaucoup François Mitterrand. Et... Moi, je ne mets jamais un nom au bas d'un parchemin. Je ne mets jamais... Mais j'aimais cet homme, pour sa culture, pour tout.
Vous avez échangé avec lui, déjà.
Je me rappelle qu'on avait dîné un soir, parce qu'il y avait un hommage à Bette Davis. Et je me souviens, justement, que j'avais aimé cet homme, parce que quand Bette Davis est sortie pour aller se coucher, rompant tout le protocole, il l'avait accompagnée, comme si c'était sa mère. Il l'avait mis dans la voiture, il avait fermé la porte et lui avait dit au revoir. Et ça m'avait plu.
Que faisait Nicolas Bedos au Ritz dans une autre vie ?
Travaillait ?
Musique ?
Il travaillait, oui, mais comme quoi ? Alors,
barman. DJ ?
Non, mais voilà, il travaillait, musique.
Pianiste ?
Exactement. Qui est le pianiste ?
C'est Fanny.
Bonne réponse de Fanny Ardant.
Ah, exactement. Moi,
Fanny Ardant. Oui, pendant quelques mois. J'ai fait le
piano bar du Ritz.
Piano bar du Ritz.
C'est le est-ce que c'est vraiment le grand moment de solitude comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire que personne ne vous écoute, on est là en train de discuter, de partager
avec
les autres.
C'est pire que ça, Nagui. C'est pire que ça. Je m'étais un moment un peu laissé aller à quelques arpèges un peu plus mélodieuses que d'habitude, et le directeur est venu me voir en me disant, c'est pas un concert, vous êtes censé vous fondre, donc il faut jazzer tous ces accords pour faire une sorte de soupasse.
Musique d'ascenseur, quoi.
On n'est pas à taratata.
Et des fois, on est tenté de faire le petit bonhomme en mousse pour déconner 5 secondes.
Non, mais on fait des standards de Sinatra. On peut faire des choses qu'on aime aussi. Moi, je m'étais un peu amusé. Parfois, je m'amusais avec du Charlebois. Je faisais des trucs. Mais tout ça dans une sorte de ronron. Par contre, j'ai vécu des choses en coulisses intéressantes. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir vécu... On parle beaucoup évidemment et à propos du rapport, comment dire, blessant, agressant des hommes avec les femmes. Et je me souviens que deux Américaines m'avaient glissé leur numéro de chambre de femmes beaucoup plus âgées que moi. Elles avaient 30 ou 40 ans de plus que moi. Et j'étais par curiosité allé voir dans une chambre ces deux femmes ivres qui m'avaient traité comme un objet. Je m'étais retrouvé, j'avais un peu eu un aperçu de ce qu'une femme peut vivre.
Ça finit en trouble, cette histoire.
Pas du tout, il s'est pas passé grand chose, mais elles avaient un mépris. Elles me touchaient, elles me tripotaient, tout ça.
Arrêtez, taisez-vous. Ouais.
Ça t'excite, Daniel. Non, mais il y a un côté gigolo dans cette
histoire. Exactement.
Oui. C'est ça?
Exactement. Et il y avait d'ailleurs des prostituées aussi. Et on discutait parfois en fin de soirée.
Est-ce que, justement, être pianiste dans un piano-bar comme ça, on observe la vie, le comportement, les rapports? Est-ce que vous voyez, il y avait des habitués qui venaient avec des comportements toujours les mêmes?
Ce dont je me souviens le plus, c'était des discussions que j'avais avec les serveurs là-bas, qui étaient désemparé par le manque de distinction de la clientèle. Parce qu'ils avaient appris, eux, dans des écoles ou avec des expériences très raffinées.
L'excellence du service.
Et ils servaient des Américains ou autres, je n'ai rien contre les Américains, mais qui arrivaient sans aucune manière, avec la banane, tu sais, l'espèce de sac autour du truc.
Hyper chic, ça.
Et qui commandaient des cafés américanos, non, des trucs comme ça.
Mais ça se passe maintenant avec les clients russes qui débarquent dans les palaces du sud.
Il est évident que la politesse n'est pas toujours l'apanage des plus riches, en l'occurrence. Ils pensent que parce qu'ils ont tout, et ils peuvent se passer d'un s'il vous plaît ou d'un merci.
Et puis, qui ne s'intéressait absolument pas à la qualité d'un cocktail, et je me souviens qu'il y en avait un particulièrement, on buvait des coups après au Sherwood, qui était un autre bar à côté, et il disait, je n'ai pas appris à travailler pour ces gens-là.
Sherwood, qui était plutôt là le rendez-vous des comédiens après les spectacles et après les concerts. Hein. C'était quand même une adresse, je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs.
Oui, ça existe toujours.
Voilà, une adresse référence dans le monde artistique parisien, les nuits parisiennes.
Étonnement, on n'y croit pas une seconde, Nagui. Ça existe toujours, tu passes tes soirées à boire des coups dans les bars.
Alors, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis plus allé au Sherwood, mais tu sais quoi, ça me donne envie d'y retourner en tout cas.
Non, mais c'est vrai. On t'appelle Robin Desbois là-bas. Non, c'est vraiment...
C'est une belle adresse. Ouais. Parlons donc de cette belle époque, Nicolas Bedos, avec le point de départ. Est-ce que c'est une histoire d'amour qui a besoin de renaître de ses cendres, ou est-ce que le point de départ, c'est de se dire, j'ai cette idée de faire revivre un moment magique du passé ou de la vie de quelqu'un, et à quoi cela pourrait servir?
Tout ça, c'est un briquet. Mais je vous l'ai dit, moi, c'est au départ, moi, l'envie de comme disent certains, d'éclater un type cassé, un type de l'éclater au sens de lui faire la fête. Voilà, j'avais envie de faire la fête à cet homme et à travers lui à ce que je sentais un peu de la société. Voilà, je sens autour de moi une odeur un petit désarroi parfois.
Vous avez apporté des rôles formidables à Fanny Ardant, à Doria Tillier, à Guillaume Canet, à Daniel Auteuil. Ils sont, et pas que ces quatre-là, mais en tout cas, ils sont vraiment remarquables dans leurs personnages. Vous les aviez en tête au moment d'écrire ?
Certains. Fanny, par exemple, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années maintenant, quelques courtes années, et qui n'a rien à voir avec Marianne, mais je l'ai écrit en pensant à elle. Et il fallait d'ailleurs quelqu'un comme Fanny pour que Marianne soit ce qu'elle est devenue. Parce que les répliques en elles-mêmes jouées par quelqu'un d'autre, je vous laisse imaginer, ça aurait pu être beaucoup trop âcre, beaucoup trop... Fanny crée des dimensions supplémentaires, encore une fois. Daniel qui fait, je trouve, un cadeau magnifique à ce film. et aux gens. Daniel, il n'y a pas beaucoup non plus. La question s'est pas posée longtemps parce que un mec qu'on découvre au début du film dans cet état-là, plein d'amertume, au seuil finalement d'une sorte de démission.
Oui, et puis pas tellement mis en valeur non plus. Enfin, on a pas envie d'être son pote hein, au début. Ouais, hein,
ouais. Il est pas très aimable. Non,
moi il me touche moi. Dès le début.
Il est hyper touchant.
Il est
agressif avec tout le monde. Ouais.
Non, mais il est sympa extérieurement, mais partager sa vie avec lui, c'est tirer constamment vers le bas, vers la fin.
Même sa propre famille, c'est
il est contre, quoi.
Ouais, ouais.
Il est contre et il a lâché.
Et après, on comprend où il est touchant.
Et puis, tout d'un coup,
on apprend à le connaître.
Ça, cette espèce de métamorphose sans effets spéciaux qui est liée au talent. Oui, il se rase la barbe, d'accord. Mais bon, dessous, il y avait un acteur. Et un acteur qui, tout d'un coup, et la jeunesse, il l'a fait venir pas par le maquillage ou par les. Il l'a fait venir par ses émotions. Et c'est vrai que voir Daniel, voir l'histoire d'amitié qu'il y a eu entre Daniel et son propre personnage, qui lui a permis tous les matins de me raconter des choses très fortes sur sa propre vie, sur sa propre nostalgie, sur ses voilà, c'était magnifique pour moi. Il y a eu un film à côté du film, et donc Daniel, pareil, je vous laisse imaginer d'autres comédiens qui soient pas libidineux face à Doria Tillier, qui a une trentaine d'années. Il est quand même incroyable cet acteur, incroyable parce qu'il est beau, il est moche, il est jeune, il est vieux. Il est amer, il est émouvant.
Il est rock.
Mmh. Quand il arrive à un moment donné en cuir dans la boîte et qu'il est sur le point de participer à une partouze, on se dit pas, oh, c'est papy dans une comédie. Non, il est crédible.
Et pas que dans ce genre de
film.
Et quand il est complètement défoncé aussi, il est complètement crédible. Et ça s'est posé la question pour vous aussi de jouer dans le film, puisque dans le précédent, vous étiez à l'affiche avec Doria Tillier, mais là.
Le
rôle de Guillaume Canet, vous auriez pu le.
Oui, mais justement, ça serait devenu l'histoire de Nicolas avec Doria, qui nous raconte sa vie, ses parents et tout ça. Je voulais que le film, c'était pour le public, le film. Et je voulais pas en faire une anecdote perso.
Et même jouer le fils ou avoir un rôle.
Un caméo, peut-être. Est-ce que vous passez dans
le rôle du fils n'était pas assez bien payé.
Passez-vous dans le décor quelque part. Est-ce qu'il y a un caméo dont on s'est pas rendu compte, nous, à la prochaine?
Reflet.
Je joue le joint que fume Daniel Auteuil. Non, le fils.
Belle performance.
Cette machine à remonter le temps, en tout cas, va bien vous embarquer. C'est une comédie, c'est drôle, c'est émouvant, c'est intelligent, ça s'appelle La Belle Époque. Et c'est aujourd'hui au cinéma. Voici Tom Villa qui va faire les questions et les réponses.
Nicolas Bedos, Fanny Ardant, on est très 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 heureux de vous recevoir. Merci de venir dans notre émission.
Elle voulait voir à quoi ça ressemblait les coulisses d'un show.
Bon, enfin Nicolas, je pense que Fanny Ardant a déjà vu un show. Alors là, regardez, vous avez Leïla Kadour Boudadi, à sa gauche, vous avez...
Donald Trump.
Oui, non, pas loin, c'est Nagui. Hein, Nicolas, vous l'aviez vu, Nagui?
Bah oui, je l'ai vu, connard, il est là tous les soirs, comme ta gueule de merde.
Ouais, alors, en revanche,
ah, c'est lui.
Est-ce que le connard était nécessaire?
Sans doute, c'est pour le plaisir de la vanne.
Oui, bah oui, il n'y a pas de souci. Excusez-nous, Fanny, je suis vraiment désolé. Hein,
Il a une personnalité un peu chelou et c'est vraiment un très bon gars.
Oui, merci Fanny. Nicolas, si on revient sur votre cas, vous étiez un peu l'enfant terrible de la télévision. Maintenant que vous êtes un réalisateur reconnu, Nicolas Bedos, sans limite, qui faisait ses chroniques à la télé, il a disparu.
Vous m'entendrez jamais dire des phrases grossières ou vulgaires.
Non, c'est vrai que ça s'est pas forcément senti sur la première réponse, mais en tout cas, je trouve ça bien.
Et... le point de ma fiancée est dans le derrière.
Oui, donc ça, par exemple, vous le direz plus.
Hein. Non, c'est pas chic.
Non, c'est pas
cette
chic.
Salope.
Oui, oui, on a bien compris. Excusez-nous, Fanny, je suis nouveau. Je suis désolé.
Je vous avais dit qu'il est un peu chelou.
Oui, c'est vrai, mais on est toujours un peu surpris. Hein, c'est fou. Alors, pour résumer, Nicolas Bedos, vous êtes assagi. Qu'est-ce qui nous le prouve?
J'adore Arnaud Montebourg.
Oh putain, ah, c'est pire que ce que je pensais. Alors Fanny, revenons à vous, je suis assez impressionné de vous rencontrer. Vous êtes l'actrice mystérieuse, passionnée de lecture et de culture.
La Franco,
oui. Alors, je parle pas bien l'italien, ça doit vouloir dire bienvenue, je suppose.
Le point de ma fiancée est dans le derrière.
Ah, ça veut dire ça. Bah écoutez, le tout c'est de frapper avant d'entrer. Hein, et puis dans la bouche de Fanny, c'est toujours plus chic. Fanny Ardant, vous jouez donc dans La Belle Époque.
Alors raconte, c'est quoi?
Bah, c'est vous qui jouez dedans, donc je sais pas, je raconterai le film.
Vas-y, fous-toi à poil que je regarde un peu.
Non, Nicolas, deux secondes, je me fous à poil. Non, vous pourriez faire un effort, c'est de faire la promo de votre film. Ça...
Que de la merde.
Oui, alors, peut-être, mais bon, Fanny Ardant, je me demandais, sur le tournage du film, vous l'appeliez comment le réalisateur? Nicolas, Monsieur Bedos?
Les autres l'appelaient l'idiot.
Ah, bah... C'est pas sympa.
T'as pas un petit boulot?
Non, Nicolas, faut pas s'arrêter à ça. Je vous ai vu, j'ai vu le film à votre place. Je continuerai dans cette voie. Hein,
j'ai essayé d'être honnête.
Oui, mais Fanny, parfois, des fois, faut mettre les formes. En tout cas, je le redis. Hein. Fanny, vous êtes une actrice que j'admire. Nicolas, vous avez beaucoup de talent. D'ailleurs, pour les jeunes réalisateurs qui nous écoutent, un petit conseil?
Il faut avoir bu beaucoup pour en arriver là.
J'en prends bonne note. Bonne émission.
Bravo, Tony.
La bande originale. Nagui. Sur France Inter.
Et Tom, on se retrouve jeudi et vendredi à Bordeaux pour ton spectacle Les Nommés Sont.
Oui.
Ça, c'est la musique de La Belle Époque, dont vous êtes le compositeur.
Le co-compositeur.
Ah pardon, le co. Oui.
C'est vrai. J'ai cette chance de pouvoir faire de faire de la musique, d'avoir appris la musique. Et donc, le cinéma m'offre cette espèce de terrain de jeu formidable où on peut faire un peu de littérature, un peu de peinture et un peu de musique également.
La musique, vous l'aviez, elle vient en tête quand on écrit, c'est-à-dire que... je sais pas, on est déjà
j'écoute
en train
beaucoup de musique d'autres compositeurs bien plus échevelés que je ne le suis.
Des compositeurs de musique de film ?
Oui, beaucoup. Oui, comme John Bryan.
C'est un métier à part, compositeur de musique de film.
Moi, j'en considère
les
certains.
Les John Williams.
Oui, oui. Je considère certains d'entre eux comme les compositeurs classiques de notre temps. Quand on n'a pas suivi, le chemin de la musique contemporaine, le chemin de Messiaen, Bartok et tout ça, qui peut égarer un peu quand même, de par son refus de la mélodie. Je trouve que John Williams, c'est le Beethoven de nos jours. Et puis il y en a d'autres, hein, Philip Glass, tout ça. C'est et donc quand j'écris, pour justement que ces images se mettent en place, ce montage alterné, ces histoires qui s'imbriquent, cette espèce de tourbillon que j'adore embrasser, la musique m'y aide. Parce que elle m'aide justement à mélanger les choses.
Vous l'enregistrez pendant l'écriture, vous avez un petit magnéto à côté.
Après, je me mets un peu à mon piano.
Ouais.
Et puis, j'ai posé un piano dans le décor de La Belle Époque, le café du film, qui m'a permis pendant les pauses déjeuner, et puis le soir après, de travailler la musique pendant le tournage.
Dans l'ambiance, dans l'humeur. Ouais. Ouais. C'est original, ça, que la bande originale soit composée sur le lieu de tournage. Et je crois pas que ça arrive souvent.
C'est parti de la tendresse de mon chef décorateur, que j'adore, Stéphane Rosenbaum.
Qui est une réussite, en tout cas, parce que
ouais,
on
très,
dit...
très fort.
Ah ouais.
Et qui m'a dit, je t'ai mis un piano, peut-être que ça te fera plaisir.
Très bien. Voici Guillermo Guiz.
Pardon. Ça va, les amigos?
Ouais. La prochaine fois que tu veux tousser, tourne la tête. Pas de forcément.
Moi, je veux vous parler d'amour ce matin. Et vous allez me dire, mais ferme-la, qu'est-ce que tu connais, toi? Tu connais rien à l'amour, t'as le cœur sec, t'as jamais mis qui que ce soit dans ta vie. Ça va, Nagui? Ça va, on va pas revenir là-dessus. Combien de fois je vais devoir m'excuser? En même temps, je trouve que c'est votre coutume, là, qu'on doive tous vous dire je t'aime dans votre bureau juste avant l'émission. Franchement, ça, à la limite, mais d'abord c'était je t'aime, puis c'est devenu je t'aime et un bisou sur la tempe. Après un hug avec vos quadriceps. C'est pas ça, Nagui, hein? Ça, c'est pas ça. Demandez-vous deux secondes, est-ce que c'est les cuisses de l'homme ou les cuisses du patron qu'on doit embrasser à 10h56? Faut se méfier des sentiments sur le lieu de travail. Vraiment, rappelez-vous ce qu'il disait Pierre Tchernia à ce sujet. Fuck l'amour, moi, tout ce que je veux, c'est piner de la stagiaire. Ah, il nous manque, Magic! Il nous manque, Magic! Ah, Magic, il nous manque! Regardez ce qui s'est passé chez McDo début de semaine avec le grand patron Steve Easterbrook. Et là, quiconque est un petit peu familier des ressorts de la chronique amusante se dit, tiens, l'intro prétexte est fini, il est désormais question d'un fait d'actualité, est-ce qu'on serait pas par hasard en train de passer au cœur de ce billet? C'est ça, c'est maintenant, c'est le cœur du billet. C'est fou, hein, c'est bien amené, parce que d'abord j'ai essayé de concerner l'équipe avec une évocation de notre tyran, et là, regardez, je vais essayer de concerner l'auditeur maintenant. Steve Easterbrook, il a 52 ans, mais ça veut dire que dans 25 ans, il en a 77. Hein. Voilà, l'auditeur d'intérêt concerné maintenant, donc c'est vraiment et les gens ici dans le public aussi, c'est une science. Hein. En gros, Steven Easterbrook, en fait, il a une relation avec un membre du personnel, relation consentie, d'accord? Mais chez McDo, c'est interdit. Du coup, malgré ses bons résultats, le grand patron, il s'est fait dégager comme une merde. Et j'ai comme vous, premier réflexe, je me suis dit, tu sais quoi, le grand patron de McDonald's, fondamentalement, son sort, je m'en bats les steaks avec une pince à barbecue. Vraiment, il peut crever dans une cassolette de poisson becquetée par un rouget, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai eu une vache au téléphone et elle m'a dit, j'ai perdu 164 membres de ma famille à cause de lui. Mardi, tu vois vraiment, donc on est bien d'accord. À part les statistiques des maladies cardiovasculaires, ça va personne qui va le regretter. Ceci dit, Steven Easterbrook, il est quand même le 5 ou 6e grand patron américain qui saute pour les mêmes raisons, quoi. Et ça pose question. Et là, quiconque est un petit peu familier des ressorts de la chronique à vocation d'amusement se dit, ah, maintenant que les enjeux sont posés, est-ce qu'on serait pas sur le point d'avoir la position morale du billettiste? Est-ce qu'il y a peut-être même une chute? Parfaitement. On la voit pas. Position morale. Bon, l'amour entre adultes consentants, c'est de la merde. Ça sert qu'à vendre des stérilets. Tout le monde sait ça. Ceci dit, il me semble que ça se commande pas. Un couple sur 5 se forme autre. Regardez Leïla et Daniel, par exemple.
Oui.
Voilà, tous les opposent.
Oui.
Et pourtant. Voilà, regardez, parfois t'es attiré par quelqu'un qui a des touffes de poils partout dans les sinus. C'est comme ça, t'en veux rien. Tu choisis pas d'être ému par un ursidé. Eh ben, aimer, c'est ce qu'il a de plus beau. Il l'a dit, Damien Sarri. Ouais. Après, Cécilia Carré, elle a dit qu'aimer, c'est brûler au cœur d'un volcan. Moi, je trouve qu'ils auraient dû se mettre d'accord, quand même. Mais soit. Steven Easterbrook, je suppose qu'il a pas fait exprès de tomber amoureux, surtout si c'est interdit par son règlement. Pourtant, il a admis qu'il a fait une erreur de jugement. Et ça m'a fait de la peine. Imaginons, je croise Laurence Bloch, la patronne d'Inter, et bim, coup de foudre. Elle me fait Ernesto, fils de la nouvelle lune, je te trouve vachement en beauté ce matin. Ça peut arriver, je suis du matin. Eh ben, on fait quoi? Je lui dis non, Laurence Bloch, merci, mais impossible, vous êtes ma boss. Non. Je dis quoi? Forcément, on va se dire qu'elle est partiale avec moi parce que je suis non. Non. Qu'elle va me filer 5 chroniques par semaine en disant Tanguy Pastureau, Tanguy, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, mais je me rappelle plus de la bonne. Va savoir. En tout cas, chez McDo, ils ont choisi. Quand t'es patron chez McDo, tu peux ken tes clients, mais tu peux pas ken tes employés. Bim, une chute. Allez, bonne émission, les amis.
En l'écoutant là, et ben je me suis dit putain, qu'est-ce que t'es devenu chiant depuis que tu fais du cinéma, parce que c'est quand même formidable.
Vous aimiez ça, faire des papiers aussi, des billets d'humeur, Nicolas Bedos?
Bah, il y a une liberté dont il faut profiter, oui, c'est réjouissant. Quand on a la possibilité de s'exprimer comme ça, en plus.
Moi, il y a une vanne que je vais te piquer, Guillaume, moi, je vais m'en servir, mais tellement souvent.
La bonne et la mauvaise nouvelle.
Ah, mais formidable. J'ai une bonne et mauvaise nouvelle, j'ai oublié la bonne. Ça tellement. Mais si. Bon, la bande originale de cette émission, on va commencer dans les années 80 avec cette chanson. Nicolas Bedos, cette musique vous renvoie à quelle image?
À rien, puisque c'est ce qu'écoutait ma mère quand j'étais dans son ventre, voilà. Elle adorait cette chanson.
Mais d'où vous le savez?
Parce qu'elle me l'a dit.
Oui. Mais donc ça vous touche là maintenant de l'entendre?
Oui, non, je fredonnais pas la voix quand j'étais dans son ventre. J'étais précoce, mais il y a des limites. J'avais pas demandé à mon chef décorateur de mettre un piano dans le ventre de ma mère pour pouvoir composer la musique.
Vous auriez pu.
Mais
la musique de l'échographie, c'est toujours la même et c'est embêtant ce tempo là. Non mais blague à part, le chanteur, de la réentendre, ça vous fait penser à votre maman? Ça vous.
Ouais, ça me fait penser à des routes vers en Corse, dans des voitures avec la famille où tout le monde s'aime encore, ce qui n'est plus du tout le cas. Je parle de la famille au sens large. Oui. Et on chante ça à tue-tête. J'adore cette chanson. C'est une chanson du bonheur, de moments de bonheur.
Et quel regard vous portez rétrospectivement sur votre famille maintenant que vous êtes un peu plus âgé? Vous dites voilà, depuis que vous êtes gosse, voilà, j'ai une tête en forme d'aveu, je suis un Bedos, on connaît ma famille, on connaît les histoires de ma famille.
Vous rappelez que votre maman est scénariste?
Oui.
Non. C'est une connerie Wikipédia, pardon.
Elle est mannequin, danseuse, elle était mannequin. Oui, c'est ça.
Oui, oui.
Aussi.
D'accord.
Ouais.
Non, je sais pas pourquoi ils ont écrit ça. C'est pas de votre faute. C'est écrit ça et donc c'est repris partout. Et donc elle m'a dit, je te remercie de m'avoir offert une carrière de scénariste. alors que j'ai pas encore d'écrit de scénario. D'accord.
Et rétrospectivement, alors quel regard vous portez justement sur votre enfance, sur votre famille, maintenant que vous êtes un peu plus âgé, que vous avez avancé aussi dans le temps? Est-ce que votre regard a changé?
Les choses changent pas tant que ça, moi. Ouais. Mes problèmes restent les mêmes. Le métier, la notoriété, tout ça n'a pas changé grand chose. Je pense que si j'avais entamé une psychanalyse, mon psy gagnerait autant d'argent maintenant qu'il y a 10 ans.
C'est vrai, il n'y a pas d'apaisement ou un regard un peu plus tendre sur des choses qui auraient pu être plus compliquées.
En revanche, si, mais ça n'a rien à voir avec ma situation.
Ouais.
En revanche, en évoluant, on est plus indulgent, évidemment. Mm-hmm. Parce qu'on se retrouve moins loin de l'âge que nos parents avaient quand ils ont fait parfois ce qu'on estimait être des conneries.
Ouais.
Fanny Ardant, vous à cette époque, vous tournez avec François Truffaut dans La femme d'à côté et avec ce formidable comédien qui est Gérard Depardieu.
Oui, avec des scènes folles. Je crois que tout le monde, une fois qu'on a vu ce film un jour, peut convoquer le souvenir d'une scène ou d'un échange. Votre souvenir à vous, ce serait lequel s'il y avait un moment à garder de La femme d'à côté?
Quand mon mari lui dit « Viens, je vais te présenter les voisins
».
Parce que c'est la première scène qu'on a tournée.
Oui.
Et oui, il me tend la main et personne ne sait qu'on a été des amants foudroyant et foudroyé.
Ouais, elle est folle cette scène.
Parce que c'est comme la neutralité, mais qu'il n'y a que moi qui sais.
Ouais.
Et comme j'avais rien fait, je me souviens toujours que la façon dont Gérard m'a tendu la main et m'a regardé, toujours le regard, ça y est, on était embarqués.
Ah ouais, c'est complètement fou. Moi, j'ai des frissons juste à. Je revois. Vous, Nicolas, vous voyez, j'imagine très très bien ce film. Oui. Quel moment vous a touché comme ça que vous retenez particulièrement?
Moi, ce qui me touche, on est à la radio, mais ce qui me touche, c'est de voir le regard de Leïla Kaddour regardant Fanny Ardant.
Ah ouais, parce que
ça, c'est vrai que c'est
ça brille. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup.
Mais surtout qu'elle est très mieux, pas l'objet.
Je fais le point, en fait. Moi, c'est la scène dans la cuisine, c'est-à-dire que quand il demande à sa, oui. quand Gérard est dans sa cuisine avec sa femme légitime et ses enfants, son enfant, et qu'il demande à ce qu'il fasse un peu moins de bruit, juste parce qu'il veut entendre le bruit de la voiture de votre personnage qui arrive en face. Exactement. Et moi, ça me rend complètement dingue.
Oui, c'est une idée magnifique et magique.
Et aussi le parking, où ils ont l'air complètement indifférents en achetant des produits dans le supermarché, et puis tout d'un coup...
Mais la femme d'à côté est sortie il y a très longtemps, alors que La Belle Époque, on en parle aujourd'hui.
En 1997. Could It Be Magic, Donna Summer, 97-98, sont les années canales pour vous, Nicolas Bedos?
C'est les années, ça va pas. C'est les années, je fais n'importe quoi. Voilà, cette chanson, c'est mes ivresses, c'est mes ratés, c'est mes errances. Et en même temps, c'est des très très bons moments également.
Vous êtes engagé à Canal comme conseiller?
Oui.
Ouais. C'était quoi?
Nagui m'a croisé à cette époque-là.
Bah ouais, tu m'as conseillé, regarde ce que ça donnait.
Désolé.
Ça consistait en quoi? Ça consistait en quoi, en fait?
J'étais trop jeune, j'étais pas.
Non, arrête, t'étais conseiller artistique. Oui. Et...
Vous avez lancé, initié des choses, vous avez fait un. Voilà.
Oui, mais j'étais pas bien dans cette équipe-là.
C'était quoi? C'était à Canal Plus ID, c'est ça?
C'est ça, exactement. On avait monté ce truc. Et puis en fait, je.
Il y avait Nicolas Plisson.
Oui. Mais je crois qu'en fait j'avais envie de m'exprimer et c'était pas logique qu'à 19 ans je me retrouve, ou à 18 ans, je me retrouve à auditionner des jeunes auteurs, des jeunes humoristes et tout ça. On m'avait mis dans un bureau avec un salaire de cadre, alors qu'en fait il fallait que j'y aille moi-même, faire le con et me brûler peut-être. Donc je me suis sorti très vite de ça. C'est Alain de Greffe qui avait jeté son dévolu sur moi, c'était un homme très, très estimé, qui avait du pouvoir. Et il m'avait rencontré à un déjeuner et il s'était dit, c'est quoi ce petit merdeux qui parle bien là? Et donc il m'avait donné une chance bien trop tôt. Voilà, mais c'est une très belle chanson de Donna Summer que j'ai voulu mettre dans le film et elle était trop chère. Ah. Donc on a mis Baccarat, qui est pas mal non plus, qui permet à Doria Tillier de danser sur un podium devant un Daniel Auteuil enamouré.
De reconstituer une scène justement.
Voilà, c'est 20 000 euros de moins, c'est pas mal non plus.
Ça marche bien.
Fanny Ardant, dans ces années, fin des années 90, vous recevez le César de la meilleure actrice. Et pourtant, vous n'aimez pas particulièrement les hommages ou les récompenses. Et comment vous l'avez vécu alors, ce César?
En fait, j'étais pas dans la salle.
J'étais au théâtre ce
soir. Oui.
C'est pour Pédale Douce, hein, le film. Ouais. Mais c'est quand même pas n'importe quelle récompense, parce qu'il y a la récompense en elle-même, il y a ce film aussi. Oui. Ce film, c'est quand même entrevoir chez vous une capacité comique exceptionnelle qui n'avait pas forcément été dévoilée par le passé dans votre filmographie.
C'est vrai, mais je trouve toujours les prix comme gelati, comme des glaces. C'est enfantin un prix, c'est enfantin une récompense, c'est enfantin une Légion d'honneur.
Mais c'est la récompense qui vous gêne ou c'est la compétition entre actrices?
Echo. Ça. Tu vois, il y a toujours.
On peut se concentrer sur une langue. C'est vrai, Nagui, il est déjà limité en français. Si on commence à balancer le truc, là, on va pas y arriver. Un petit effort, Fanny Ardant, s'il vous plaît. Hein.
Oui, parce que même, par exemple, il y avait trois poilus de la guerre de 14, on allait donner le prix à celui qui mourait le dernier.
Oui, c'est vrai.
Quelle vergogne.
C'est une douceur, quand même. Je vais vous parler de glace.
Voilà, oui, il faut considérer la récompense comme une glace.
Oui. Alors, la récompense, si vous allez au cinéma, c'est de voir un bon film. C'est bien ça, Nicolas?
Oh, joli,
La Belle Époque sort aujourd'hui avec Fanny Ardant, Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, réalisé par Nicolas Bedos et Christophe Galfard. Bonjour, Christophe.
Bonjour.
Et à ce micro, vous êtes docteur en physique théorique. Vous organisez une conférence grand public tous les mois. La prochaine est sur le temps, intitulée « Le temps existe-t-il ? » Et comme on a justement cette notion du temps et de la machine à remonter le temps dans le film de Nicolas Bedos, d'abord, c'est un fantasme que l'on a depuis toujours, cette machine à remonter le temps.
Mais en tout cas, même pour les scientifiques comme pour les pas scientifiques, hein, l'idée de pouvoir remonter dans le temps ou d'aller vers le futur.
Ou de la faille spatio-temporelle, oui.
Ce genre de choses. Même mieux encore quand c'est maîtrisé quelque part. Si on arrive non pas juste à tomber dans un trou et apparaître n'importe où, mais de maîtriser ce voyage-là, oui, ça a été. Bah, si vous voulez, la notion même de temps a complètement changé il y a environ 100 ans. quand Einstein est venu nous expliquer ce qu'était un petit peu la structure même de notre univers. Avant lui...
Le E égale MC2.
Plutôt une autre théorie qui est celle de la gravitation.
D'accord. E égale MC, celle-là.
Qui est là une théorie de la gravitation qui nous explique que espace et temps s'entremêlent et peuvent changer dans l'espace. Si vous voulez, avant Einstein, le temps, c'est celui qu'on comprend tous. C'est, on se dit qu'il y a un temps qui est universel, que notre montre qui est là, notre poignet, c'est la même pour tous, où qu'on soit, qui est un peu extérieur à l'univers, si vous voulez. Alors, remonter dans ce temps-là, ça voudrait dire qu'il faudrait faire un bond pour tout le monde au même moment. C'est bizarre. Le temps d'Einstein est différent. Le temps d'Einstein, il dépend d'où vous êtes et de qui vous êtes, en gros. D'où vous vous placez dans l'univers, de la vitesse à laquelle vous allez, c'est un temps qui vous est propre.
Oui, mais ça c'est mathématique, c'est pas psychologique, c'est pas philosophique.
C'est complètement réel. C'est-à-dire que c'est le temps mesuré par votre montre à votre poignet, par votre corps qui peut éventuellement vieillir et changer, par les choses qui se passent autour de vous, par les objets qui tombent, par une flèche du temps. Ce temps-là, mesurable par des objets, par des montres et tout, et par le vivant, si vous voulez, il n'est pas le même pour tout le monde. Depuis qu'on sait ça, les scientifiques se disent « Ah, mais alors du coup, peut-être qu'on peut le changer. Peut-être qu'on peut en prendre un bout et aller ailleurs. » Il y a peut-être un mot que vous connaissez qui s'appelle un trou de verre, qui est une sorte de chose qui a été inventée par les scientifiques dans les années 50 à peu près, qui est un passage d'un endroit à un autre dans l'univers. Une sorte de tunnel, de raccourci. Au lieu d'aller à la vitesse de la lumière pour aller d'un endroit à un autre le plus vite possible, faites un raccourci qui vous permet d'aller d'un endroit à un autre plus vite que la lumière. Sans voyager, en fait. Bouger sans voyager. Bon, je vous donne un exemple. Le fantasme des scientifiques.
Ça donne envie, surtout.
Un fantasme de scientifique, mais c'est d'utiliser une sorte de tunnel comme ça et d'amener un des bouts pas très loin de ce qu'on appelle un trou noir, qui est l'extrême de la gravitation. Si on fait ça, le temps au niveau de la sortie ne s'écoule pas de la même manière que le temps au niveau de l'entrée. Il peut y avoir en une seconde à la sortie un milliard d'années qui se passent au niveau de l'entrée. Donc si vous traversez un tunnel pareil, vous allez arriver un milliard d'années plus tôt que le moment où vous êtes rentré à l'intérieur de votre tunnel.
Tu nous as tous perdus là.
Non. Cette quête de maîtriser le temps, c'est la peur de la mort.
Alors, vous pouvez le voir comme ça, si vous voulez. Probablement,
sans côté optimiste.
Oui, ou plutôt de... Enfin, je sais pas, il y a une sorte de curiosité à travers le temps de changer les limites de notre perception. Malheureusement, avec tout ce que je viens de vous dire, même le petit exemple que je vous ai donné là, pour l'instant, ça marche pas. Même théoriquement, vous êtes rassuré peut-être.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui marche sur le temps ?
On peut aller dans le futur. Ça, c'est les particules qui sont autour de nous le font assez facilement. Elles vont vite et voyagent dans notre futur... quasi tout le temps autour de nous. Pour nous, il faudrait aller extrêmement vite, quasiment à la vitesse de la lumière, pour que notre temps s'écoule différemment. Mais juste un truc par rapport à gagner, par rapport à la mort, en utilisant ce genre de machine, il y a un petit problème qui est que le temps vous est propre. C'est votre temps à vous. Celui de votre montre reste votre montre. Une seconde sera pour vous toujours une seconde. En revanche, quand vous allez regarder les montres des autres, vous allez éventuellement voir les autres avancer plus vite dans le temps, voir leur montre tourner.
Ça, c'est c'est pas le temps qui change, c'est la perception.
Pas du tout une perception.
Du temps.
C'est justement, c'est réel. Ça, on a réussi à le mesurer physiquement. Mais ça veut dire que votre temps à vous, 100 ans, imaginons que vous viviez 100 ans, quel que soit le voyage dans le temps que vous ferez, vous vivrez toujours 100 ans pour vous. Mais ça correspondra peut-être à 1000 ans pour quelqu'un d'autre, ou à 10 ans pour quelqu'un d'autre. Le temps va dépendre de la personne. Mais 100 ans pour vous seront toujours 100 ans. Et en gros, si vous voulez voyager dans le temps en utilisant la science, c'est un peu compliqué. Je pense que la solution qu'a trouvé Nicolas Bezos, c'est quand même...
Il y a un des trucs qui a commandé aussi mon envie d'envoyer Daniel Auteuil dans cette histoire d'entreprise qui remonte dans le temps. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent les souvenirs sont un peu supérieurs à ce qu'on a ressenti sur le moment.
Bien sûr.
Parce que...
comme les histoires d'amour.
Oui, parce que... Et ce que vit Daniel, c'est quand même un petit miracle, c'est qu'on... Il revit les faits, mais déshabillé de l'anxiété qui les habille sur le moment. Comme les histoires d'amour, comme dit Léla, c'est-à-dire qu'on a des premiers dîners magnifiques quand on y repense rétrospectivement, mais en fait, on avait mal au bide, on avait de la sueur sur le front, on avait la trouille de dire de la merde, et tout ça. Et là, tout d'un coup, revivre ça, clean, Virginie, quoi.
Nettoyé.
Je sais pas si c'est Virginie, plutôt, c'est un des rares moments où on se souvient du futur.
Oui,
et que du coup, de toute façon, on sait que ça a foiré, donc ça...
Quel est votre rapport au temps, Nicolas Bedos, justement? Vous êtes un
très angoissé. Compliqué, très compliqué. C'est pas hasard si ces deux films parlent de ça,
ah oui.
Très compliqué. Ma mère me racontait que souvent quand je rentrais de vacances, je disais je vais m'enfermer dans ma chambre pour essayer de me souvenir de tout ce qu'on vient de vivre. J'avais très peur de, j'avais besoin de faire une relecture, comme on repasse sur une toile, comme on, de même que je sentais les livres. J'ai toujours peur en fait que mon esprit superficiel me prive de la richesse et de la préciosité de la vie.
Feignardant, vous, quel est votre rapport au temps justement?
Un peu comme Nicolas. Je pense que j'ai... c'est très précieux de garder intact tout ce qu'on a vécu. La joie comme le chagrin, tu vois, l'échec comme la réussite. C'est l'idée... de... souvent, on dit qu'il ne faut pas se retourner sur le passé. Mais moi, je trouve très important d'avoir dans une pièce de la maison intérieure un monde qu'on peut faire revivre comme on veut.
Mais il y a aussi la manière dont on consomme le temps, c'est-à-dire soit être dans la contemplation et faire qu'une seconde dure une éternité, ou au contraire, le charger tellement d'activités qu'on a l'impression d'avoir vécu 24 heures en une minute.
Ça, c'est amusant parce que cette... Quand on regarde la façon dont les scientifiques essayent de comprendre la nature qui nous entoure, ils essayent de trouver des lois. Ils essayent d'en trouver qui vont permettre d'une certaine manière de prédire l'avenir. Une loi en physique permet à partir d'une situation de dire « Ah ben si on a ça, il va se passer quelque chose ». C'est une sorte de prédiction de ce qui va se passer dans l'avenir. Il n'y a, au niveau fondamental, aucune loi de la physique qui fait une distinction entre le temps qui va vers le futur et le temps qui va vers le passé. Les deux sont possibles en science. Il n'y a aucune distinction, il n'y a pas de flèche du temps, si vous voulez. Quand vous prenez un film et que vous faites rouler une balle...
Faites vite parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps.
Quand une balle roule dans un film, on peut la filmer et on peut faire le film dans l'autre sens, les deux vous paraissent corrects. En revanche, si vous voyez quelqu'un qui est rajeuni, oui, vous savez que ce n'est pas correct. Il y a une flèche du temps pour nous. Beaucoup de scientifiques se sont demandé si la notion d'écoulement du temps ou du passé vers le futur était notre apanage, si ça ne dépendait pas du vivant, donc si ce n'est pas quelque chose qui apparaît dans notre univers à travers nos existences.
C'est pas culturel aussi.
Les conférences intitulées Le temps existe-t-il, ça se passe au cinéma MK2 Odéon le vendredi 15 novembre à 12h30 et dans le cinéma MK2 Quai de Loire, ça sera le samedi 16 novembre à 11h à Paris. Merci beaucoup Christophe Galfard d'être venu à ce micro. Tanguy, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Sur les plateaux des chaînes info, la tension monte.
Oui, hier deux personnes, Zineb El Razoui et Julie Graziani, ont fait fort. L'une a dit que la police devait tirer à balles réelles sur les émeutiers, l'autre que quand on est une mère smicarde et qu'on divorçait, il fallait s'en prendre qu'à soi-même si on n'avait pas de blé. Donc sinon, je rappelle que sur la zapette existe le bouton 3 qui permet de regarder la carte au trésor de Cyril Ferraud, qui lui est plutôt calme.
On en parle après les infos de midi. Soyez les bienvenus avec Leïla Kadhafi, Daniel Morin,
oui, bonjour Nagui,
Tom Villa,
bonjour,
Tanguy Bassuro, Guillaume Ouliz et nos invités Nicolas Benoît, Stéphanie Ardant.
Bravo.
Nous parlons de La Belle Époque, ce film qui est sorti aujourd'hui avec Doria Tillier, Fanny Ardant, Guillaume Canet, Daniel Auteuil. La Belle Époque, réalisée par Nicolas Bedos, écrit par Nicolas Bedos, scénarisé, dialogué par Nicolas Bedos, mise en musique par Nicolas Bedos et
Anne-Sophie.
Voilà, parce que vous n'êtes pas seul à commettre la musique. L'histoire, on l'a dit, d'un couple qui vit une histoire d'amour depuis, on a l'impression, des siècles. En tout cas, ils sont au bout au bout du rouleau, les enfants sont grands et réussissent même bien leur vie, avec une vie extrêmement moderne, et ce qui déplaît fortement à Daniel Auteuil, parce que voilà, des applications, des plateformes, des téléchargements, tout ça, j'aime pas ça, c'est de la merde.
Mais c'est un nouveau vocabulaire en plus, d'un coup, oui, il l'identifie pas bien.
Il veut du papier et du crayon, ouais. Et il veut du concret, et pas forcément tout pour l'argent. Ouais. Mais surtout...
Il demande à un moment, il dit, papa, est-ce que tu veux regarder le promo-reel du pilote que j'ai fait pour Starnet. Et Daniel lui dit comment ?
Trop de mots. Trop de mots d'un coup.
Ouais, mais c'est ça, c'est lui qu'on agresse en fait à chaque fois. C'est lui qui se défend. Ouais. Lui, il est pas agre. Il arrive pas vers les gens en disant vous êtes tous nuls. Il dit chaque fois que ça arrive vers lui, quoi. En fait.
Sauf que il a pas voulu entendre ces mots-là à leur naissance non plus. Il les a pas suivis. Il prend tout d'un coup dans la tête alors que ces mots arrivaient au fur et à mesure et que sa femme, Fanny Ardant, elle a très bien suivi.
Il n'était pas dans le coma les 20 dernières années non plus.
Ils sont quand même agressés par la technologie pure, puisqu'il arrive à s'engueuler et à se battre avec une voiture.
Oui, mais elle, lui parle, elle est bavarde aussi.
Elle parle beaucoup.
Et d'ailleurs, Fanny lui dit, enfin, Marielle lui dit, il dit ta gueule à la voix du GPS, et elle dit, je préfère la voix du GPS à la tienne.
Oui, mais il y avait cette phrase magnifique de Hannah Arendt qui disait, la dégradante obligation d'être de son temps.
Ah ouais, c'est joli. Très jolie phrase. Ouais.
Je suis d'accord avec ce que dit notre camarade. C'est
Guillermo.
Vrai qu'il est aussi vulnérabilisé par
l'entourage.
Il y a une agression quand même de la modernité pour des gens qui n'ont pas du tout ce logiciel-là.
En tout cas, il s'est un tout petit peu décollé de la sphère familiale. Il n'est plus totalement en phase ni avec son épouse ni avec son enfant. Il est un peu perdu.
Il se sent meuble.
Et on sent quand même qu'il a toujours, lui, des sentiments pour son épouse. On découvrira après quels sont les réels sentiments de sa femme, jouée par Fanny Ardant. Mais là où on se rend compte qu'en effet il a toujours de bons sentiments et qu'il est toujours amoureux, c'est qu'il veut revivre la rencontre de son grand amour. Quand il a ce cadeau fait par son fils et par la boîte de son fils, et donc Guillaume Canet, Michael Cohen, il veut revivre cette rencontre.
Et même début, on le sent, parce que quand il est là, il se retire un peu, j'ai l'impression qu'il se met un peu en satellite par rapport au reste de la famille. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dessine sa femme.
Oui.
Il la dessine.
Qui dessinait d'ailleurs et qui est les dessins de du film?
C'est Nicolas Baudos qui a tout fait dans ce film.
Non, c'était un garçon très doué qui s'appelle Levallois et qui est storyboarder et dessinateur de bande dessinée, qui est très doué et qui a prêté sa main à Daniel Auteuil pendant tout le film. Parce que en fait, ce que fait Guillaume Canet, le passé qu'il lui réinvente, est adapté des dessins qu'en a fait Daniel Auteuil à l'époque. Et donc, c'est le personnage de Daniel Auteuil.
Il a storyboardé cette rencontre, en fait.
Il a storyboardé toute une partie du film. Moi, ce qui me réjouissait à travers le jeu de Daniel et à travers ce personnage, c'était de montrer que les vieux, comme on dit, sont souvent des jeunes à qui on a dit « t'es vieux ». Et que dedans, ça se révolte. Je ne pense pas que les vieux se réveillent vieux et s'endorment vieux. C'est un scandale de...
Non, mais vieux, jeune, c'est ce qu'on a dans la tête. C'est pas ce qu'on a.
Oui, mais je trouve que c'est un sujet qui a l'air banal et un peu, opportuniste de ma part. Et en fait, c'est
très important. Non, mais il y en a qui sont très vieux.
J'ai fait un dîner une fois et j'ai dit, dites votre âge mental avant qu'on commence cette soirée.
C'est ça.
Et parce que, je me souviens, il y avait Augustin Trapnard qui est juste à côté, qui est un de vos camarades.
Non. C'est un collègue de bureau, c'est un collègue de bureau, c'est une fréquentation.
Et Augustin lui assumait très bien, il a dit j'ai 60 ans. Et donc on a pris ça en compte.
Comme 60 ans. Comme d'autres personnes qui travaillent à France Inter en même temps.
On avait 33, voilà. Et on a tous dit un âge différent, et je pense que c'est l'âge qu'on devrait prendre en compte quand on parle avec des gens.
Et vous diriez quoi? Vous diriez que vous avez 60 ans ou 8 ans?
Oh, quand je suis sur un tournage, j'ai un certain âge, quand je discute avec ma mère ou.
Ça varie en fait.
J'en ai 8.
Ça varie, ouais.
Et vous, Fanny Ardant?
J'en ai 15.
Non mais c'est ça, c'est-à-dire on peut presque décider aussi de l'âge que l'on a avec son comportement.
C'est le seul d'ailleurs qu'on devrait prendre en compte.
Évidemment. La Belle Époque, vous allez voyager dans le temps, mais il faut aussi préciser une chose que l'on n'a pas encore dite, c'est que c'est un très bon film. On a dit bon film, pardon, je veux dire un beau film. C'est vraiment techniquement. Alors là, tout à l'heure, on disait que malheureusement le cinéma c'était trop technique. Mais la lumière, le cadrage, la réalisation, le montage, la manière dont cette mise en abîme aussi, puisqu'on est dans des décors de cinéma, mais où on filme le cinéma qui est dans un décor de cinéma où on voit bien et tous les impétrants voient bien qu'ils sont sous des projecteurs et que le décor s'arrête et que tout est faux et que ça se décolle. Ils ne sont pas dupes. On n'est pas dans le Truman Show. Ils sont pas piégés par une émission de
télé-réalité. Voilà. Il voit la fin, il voit que ça marche pas, mais c'est son cœur qui finit de dessiner
c'est ça,
les décors.
C'est ça. Ce film-là vous emmène vers des émotions qui, elles, sont beaucoup plus sincères, touchantes et émouvantes, mais c'est là où c'est le beau cinéma, finalement. C'est que c'est un bout de rêve qui nous embarque dans un voyage, et puis à la fin, voilà, on se pose aussi des questions comme on vient de le faire. Quel âge on a? Dans quelle époque on aimerait vivre? Qu'est-ce qu'on aimerait revivre? Et puis, est-ce que l'on peut suspendre son vol, comme disait Lamartine à propos du temps aussi, qui passe trop vite? Tous ces moments-là, toutes ces questions-là sont à portée de main. Et puis, c'est bien joué, c'est agréable et c'est drôle. Ça s'appelle La Belle
Époque. Tu nous le conseilles?
Voici Tanguy Passion. Tanguy, la France devient folle, paraît-il.
Oui, notre pays qui abritait les plus grands esprits, Balzac, Pasteur, Vincent Bolloré, est devenu un vivier à cons. Il y a moins de lumière là-dedans que dans la yourte de Christophe Maé à 22h. J'ai envie de faire comme dans le film La Belle Époque, me retrouver en 74, mon année de naissance, où je pouvais passer la journée tranquille à me faire pipi dessus. Phénomène que certains dans le public ici connaissent, pas parce qu'ils rient, mais à cause de leur âge. En ce moment, on en perd un par mois. La nuit, quand je regarde les étoiles, je vois nos auditeurs qui me sourient. Oui, la France est malade, divisée, elle a la haine. On sent que ça couve. Certains fantasmes sur une guerre civile qui se préparait, on lit ça sur le net. Une guerre civile? Ah oui? Hein? Et avec qui? Y a pas un mec dans ce pays foutu de mettre une couette dans une housse de couette? Une table de chevet Ikea à monter, tout le monde pleure. Vraiment? Vous allez prendre une arme, la manipuler de manière à tuer quelqu'un? Pour attraper les sushis avec des baguettes, il vous a fallu 2 ans. Oui, la tension monte, alimentée par les chaînes info, les réseaux sociaux. Regardez Chanteloup, les vignes. Un nom champêtre, on pense fête du village, sexe derrière l'église, alcool et bien-être. Chanteloup, ça pourrait être un film avec Jean Reno qui combat des canidés en criant « Meurs, fils de chien !» Et l'autre soir, ça a brûlé. Des types ont caillassé des flics et des pompiers, ces êtres exquis qui nous gonflent juste une fois par an avec leur calendrier moche. Et une structure de chapiteaux a brûlé où des enfants apprenaient les métiers du cirque. Alors ça, c'est bien par contre, parce que le cirque est une impasse. Hein, on finit par jongler avec des quilles pour 1000 balles par mois. Certains deviennent intermittents du spectacle, on a une barbe, on pue, on porte des fringues en lin. Je dis aux jeunes, devenez traders avant que le système s'effondre. Il reste 4-5 milliards à choper avant l'avènement d'Alexis Corbière. Donc Chanteloup brûle, alors que Canteloup, lui, est à un petit 37,6. Là, on se dit, c'est grave. Même le film Le Joker, c'est plus calme qu'une nuit à Chanteloup. Ça sent le lâcher de psychopathe. Mais non, on a tellement l'habitude de ce chaos qu'Édouard Philippe, le grand brun avec deux chaussures pareilles, en visite à Chanteloup, dit au départ, nous avons affaire à une bande d'imbéciles. Si les types avaient cramé la mairie, il aurait ajouté, mais ce sont vraiment méchants. Le préfet, un quart d'heure plus tard, dit, ce sont des crétins. Ensuite, la voiture de Oui-Oui est passée derrière lui avec à l'arrière des lapins en train de jouer de la flûte. Mais pardon, mais brûler un chapiteau où des enfants viennent apprendre, c'est un acte criminel. Donc on fout les vilains en tôle et on en profite pour libérer Patrick Balkany. Parce qu'avec vos conneries, il va rater l'arbre de Noël de Levallois. Or, les seniors attendent leur cadeau de fin d'année. Un Nissan Qashqai chacun, plus 200 000 euros de chèque Cadoc. Et comme les gens au pouvoir ne disent pas les mots, ceux qui, eux, les disent sortent du lot et on n'est pas sur des flèches, comme on dit dans la forêt de Sherwood. Hier, sur CNews, Zined El Razoui, ex de Charlie Hebdo, a dit « Quand les policiers tombent dans un guet-apens, il faut qu'ils puissent tirer à balles réelles. » Alors que, pardon, mais le dernier Céline Dion dans une enceinte connectée fait aussi bien l'affaire. Hein, les vilains et les méchants ont d'un coup les oreilles qui saignent et se tirent pour chouiner chez leur mère.
Bon, ça s'est passé hier, tout ça, dans l'émission de l'ami de Daniel Morin, Pascal Praud.
Oui, qui était effondré, Pascal Praud, et pourtant il en a entendu des conneries, lui. Il est blindé. C'est un type qui peut écouter Ségolène Royal parler pendant 16 heures sans sourciller. Et Madame El Razoui, pour valider son propos, a dit c'est ce que tout le monde réclame sur les réseaux sociaux. Mais si on se met à appliquer dans la vie ce qui est dit sur Facebook, enfin c'est n'importe quoi. Quand il y a une photo de Ryan Gosling, tout le monde écrit « je me le taperais bien ». Donc on fait quoi? On l'attache nu, place de la Concorde, et un par un, les gens viennent s'empaler sur son sexe. Mais les réseaux sociaux, c'est un fatras de conneries. Il y a même des gens qui m'écrivent pour me dire que mes chroniques sont bien. Hein, d'autant que les tirs à balles réelles dans des quartiers où quand même il y a 2-3 guns qui traînent, le séduisent, ça se transforme en Boys in the Hood. Alors certes, ça s'appelle la légitime défense, la police a le droit de tirer. Mais les dernières fois qu'elle l'a fait, c'était en Martinique, en 74, encore cette année-là. Donc dans les faits, c'est aboli. C'était des ouvriers de la banane qui ont répliqué en lançant des bananes. Donc ils ont perdu. Mais il n'y a pas que sur CNews. Hier, sur LCI, on a découvert Julie Graziani. Alors elle est gratinée. Une éditorialiste chez L'Incorrect, un journal qui pourfend le politiquement correct. Donc comme Le Point, L'Express, Valeurs Actuelles, tous, parce qu'il n'y a plus comme ça qu'ils arrivent à en écouler encore 2000. Donc là, part un magnéto où une dame dit à Macron qu'en tant que mère smicarde divorcée avec 2 enfants, elle trouve les aides insuffisantes. Ce qui doit être vrai. Rien que le labo de Roméo des pyjamas qui est à 69 euros sur Amazon. Retour plateau, Julie Graziani dit « Si on est au SMIC, faut peut-être pas non plus divorcer dans ce cas-là. » Normalement, après un propos pareil, on ajoute « Riton, tu remets une suze. » C'est-à-dire que sur certaines chaînes info, on peut tout dire de ces syndromes de la Tourette élargie à la TNT. Alors elle s'est excusée, elle a dit qu'elle était énervée. Mais enfin, prenez vos pilules, les louloutes. Je fais comment, moi? Un Xanax, un Lexo, je suis bien, quoi. Sur Facebook, 4 jours que tourne la vidéo d'un barbu à Chanteloup réclamant des plages islamiques. Un délire, le mec est moins frais dans sa tête qu'une botte de Francis Lalanne. 4 jours qu'en commentaire des milliers de gens écrivent « on va tous les buter ». La guerre civile, on y vient peut-être. Il va juste falloir attendre encore un peu. Le temps que tout le monde déjà arrive à mettre sa couette dans sa housse de couette.
Merci Tony.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
La Belle Époque sort aujourd'hui au cinéma.
Oui, allez au cinéma. Ouais, voilà. Éteignez la télé.
Fanny, c'est toi.
Attendez 10 minutes.
Je suis mal placée pour le dire, ouais. Mais éteignez la télé.
Je vais le dire avec toi. Éteignez la télé.
Ah bon, qu'est-ce qui vous arrive tous les deux?
Mais non, c'est vrai. Allez au cinéma, rêvez. Ou choisissez bien ce que vous regardez.
La Belle Époque.
Arrêtez. Faut maîtriser le robinet, en fait, c'est ça. Il y a trop d'eau, tue l'eau. Fanny Ardant, Guillaume Canet, Doria Tillier, Daniel Auteuil sont à l'affiche de La belle époque. On va continuer d'en parler, mais d'abord.
Oh non,
si, si, c'est des questions concernant une citation. Et vous pouvez, Fanny Ardant, Nicolas Bedos, vous aussi, autour de cette table, essayer de trouver qui a dit qu'il a marre de la violence dans la façon de traverser la rue sans regarder, en se disant que des connards s'arrêteront. J'ai toujours vécu à Paris, j'ai du plaisir à en sortir. Je me souviens pas que la ville ait jamais été aussi sale.
Souchon ?
Ouais, c'est ouais, Alain Souchon.
C'est Souchon.
J'ai marre de la violence dans la façon de traverser dans la rue sans regarder en disant les connards vont s'arrêter en voiture. Il est bien énervé, Alain Souchon. Alain Souchon, je vous regarde, Nicolas Bedos, parce que il est toujours présent dans les BO
ouais.
de vos films.
Ouais, c'est comme un. Voilà. Une sorte de porte-bonheur.
C'est votre Madeleine, il faut, ouais. que, il faut qu'il y ait Alain Souchon.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre.
Et son regard sur Paris, vous le partagez ou pas, Fanny Ardant? Paris, vous
Moi, j'aime
voyez...
beaucoup Paris, donc même le chaos me plaît.
Les trottinettes sur les trottoirs,
oui,
les...
Oui, oui,
tout ça vous va.
Oui.
Et vous, Nicolas, vous êtes un vrai Parisien?
Non, dès que je peux m'échapper de Paris, je le fais. Je ne suis pas un Parisien. Je pourrais d'ailleurs vivre ailleurs. Mais ça n'est pas du tout un discours politique que je tiens là.
Et puis, non, mais plutôt alors ville ou campagne, c'est-à-dire quand on te dit
la mer,
ailleurs,
la
c'est
mer,
à
la mer,
la nature.
Ça me donne des idées, ça me donne envie de tout.
Kanye West vient d'annoncer qu'il avait failli arrêter le rap. Quel était c'est l'un des plus
pour
grands
devenir prêtre
pour
faire de la politique.
La raison invoquée.
Alors, pardon, on n'a pas entendu la fin de la question du coup.
Quelle était la raison invoquée? Il a failli arrêter le rap. Pourquoi?
Pour faire des baskets.
Non. Pour quelle raison il arrête le rap?
Pour la violence, pour le...
Alors ça va au-delà de ça.
Le sexisme que ça véhicule?
Oui, mais encore plus grave.
Pour lui, il a le sentiment intellectuel.
Il a le sentiment qu'il était porté. Oui, mais porté par...
Le diable.
Exactement, le diable.
Le diable.
Il disait que c'était la musique du diable. Sans aller jusque-là, Fanny Ardant, est-ce qu'il y aurait une raison d'arrêter une carrière d'artiste? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de... Pas de vous arrêter, ou qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter tout?
L'ennui.
Donc les propositions que l'on pourrait vous faire? De recevoir trop de scénarii qui sont à côté de la plaque?
Non, parce que devant la profusion, il y a toujours quelque chose qui peut vous sauver. Mais moi, je ne ferai jamais ce métier parce que de dire c'est un métier comme un autre. J'ai besoin d'avoir, tu vois, l'excitation, l'adrénaline, mais jamais l'ennui fait que j'arrêterai tout.
Et vous imaginez pouvoir tout arrêter?
Moi, quelquefois, j'ai envie d'être coiffeuse en Sicile.
Et qu'est-ce qui bloque?
Les Siciliens qui disent non. Et vous, Nicolas Bedos, c'est trop tôt pour... ou alors, est-ce qu'il y a eu des fois où vous avez dit « je laisse tout tomber »
Ouais, mais c'est des idées un peu romantiques comme ça qui nous traversent et qui sont agréables d'ailleurs, parce que c'est après avoir des périodes comme ça, de même parfois, je dirais, de douce dépression, que l'on peut avoir envie d'y retourner.
En tout cas, vous n'arrêtez pas tout de suite, non. Fanny Ardant, c'est clair, vous allez rejouer Hiroshima Mon Amour.
Oui.
Alors attendez, j'ai les dates, c'est le 9 novembre au Radion Bellevue à Caluire-et-Cuire, le 17 novembre au théâtre de Garde-Chasse au Lila. Le plaisir d'être sur scène sur des planches, d'être en contact avec le... On ressent des choses particulières quand il y a un public, quand on est sur une scène de théâtre, totalement différente que sur un plateau de cinéma. On n'est pas dans le même état?
Oui.
Merci.
Et puis, moi je pense que le théâtre, il y a quelque chose comme, enfin pour moi, comme une colère avant d'y arriver, comme si je n'aimais pas le théâtre. Et puis tout d'un coup, cette chose magique, dès qu'on est sur la scène, dès que le rideau s'ouvre... La joie absolue, donc comme si on côtoyait la colère et la joie.
Mais donc vous faites un peu violence pour y aller?
Oui, j'attends la révolution, comme vous disiez, en me disant peut-être qu'une révolution va me sauver, j'irai pas. Et après, une fois que je suis sur scène, je ne donnerai ma place à personne d'autre.
Nicolas Bedos, quel est le moteur de votre créativité?
Le besoin d'exprimer des choses, le besoin de mettre un peu d'ordre dans mon chaos, le besoin de me faire rêver. Le besoin de partager. Vous savez, moi j'ai été beaucoup, si ce n'est sauvé, du moins aidé par des chansons, par des livres, comme tout à chacun, où j'avais des frères et des sœurs de papier. C'est comme ça que j'appelle les créateurs qui tout d'un coup mettaient des mots sur un chagrin d'amour, sur sur un doute existentiel, sur un problème familial, plein de choses comme ça, sur des angoisses. Et quand on me dit aujourd'hui parfois que je n'ai absolument rien amélioré de la société, mais que à travers ce film ou le précédent,
c'est le cas absolument,
on a
contribuer
l'impression
à interpréter
voilà,
des choses,
que, tout simplement des choses que l'on avait en soi. Ben j'ai mis des mots dessus ou j'ai permis à des acteurs de les personnifier. Je trouve que c'est un métier magnifique.
Vous parlez de chaos, il est là. C'est Daniel Morin.
J'en peux plus.
Enfin. Décidément, l'Allemagne a de gros problèmes avec le carbone sous toutes ses formes. Il y a un peu plus d'un mois, c'était le début du procès du Dieselgate. Souvenez-vous, il y a 4 ans, les moteurs diesel Volkswagen, dont les tests avaient été truqués pour faire croire qu'ils étaient propres. Eh ben non, ils étaient sales, ils étaient même bien dégueux, les diesel Volkswagen. Les Allemands s'en sont pris plein la gueule du bon dioxyde de carbone. Eh ben, ils sont pas contents, les Allemands. Du coup, il y en a 500 000 qui se sont portés partie civile. Quand ça se regroupe, les Allemands, ça fout les jetons. Pauvres Allemands, la poisse continue. Le carbone n'a pas dit son dernier mot. Après le diesel, on apprend que samedi dernier, à Hattingen, près de Dortmund, 300 personnes qui festoyaient gentiment dans le club libertin local ont été évacuées et prises en charge par les services de secours suite à une intoxication au monoxyde de carbone, un gaz qui peut s'avérer mortel. Musique. Merci. Oh la vache, je sais pas ce qui m'arrive, Moumoun, mais j'ai la tête qui tourne.
Ah, mais c'est l'amour, mon chéri, c'est normal.
Non, vraiment, je me sens pas bien. Quelqu'un a renversé le poppers ? Non, il est là, pas pris ce soir. Et puis boum, le premier malaise, évacuation, SAMU, la galère, quoi. Vous imaginez le tableau ? 300 teutons en string, porte-jartel, guépière. Quoi, Nagui ? Oui, pince un téton, pourquoi pas ? Oui, tu as raison, pourquoi pas ? Eh bien, tout ce petit monde à moitié à poil. House ! Dans la rue, en pleine nuit. J'imagine les discussions. Des gens qui se connaissent tous, c'est une petite ville. Le maire a dû venir, j'en suis sûr. Bah, madame la boulangère, qu'est-ce qui se passe ? Alerte au monoxyde de carbone, monsieur le bourgmestre. Mon Dieu, quelle horreur, ça va ? Vous n'avez pas froid, billet comme ça ? Nein, ça va, c'est du latex, ça tient chaud. Ah bah mon père, ça va aller pour la messe de demain ? Oh, y a vol, pas de problème, ça va. J'ai pas été très intoxiqué, hein. J'ai porté ma boule de cuir dans la bouche toute la soirée. Oh, bonne idée, ça, les boules en cuir. Bon courage, mon père, hein. On se voit demain après la messe. Ah bah, quelle surprise. Chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Tu m'as dit que tu passais la soirée avec ta mère. Mais elle est là, elle aussi. Super, ça va. Ta mère aussi est là. Maman ? Mais elle m'a dit que ce soir, elle faisait du cheval avec une copine. Elle est venue directement après, avec sa copine. Et le cheval ? Non, le cheval n'est pas là.
Ouf !
Non mais faut que ça s'arrête tout ça les gars, faut mieux maîtriser son carbone les Allemands.
Deutsche Qualität.
Oui bah Deutsche Qualität pour le diesel et les partouzes, en tout cas je suis très déçu. À demain les Allemands.
Merci.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
La belle époque au cinéma aujourd'hui, en un mot, Guillermo, Guise, qu'est-ce que tu dis?
Moi je trouve que c'était très ambitieux comme film, mais voilà. C'était très ambitieux et que ça, ça donne de l'espoir pour les gens qui ne sont pas vraiment.
Tanguy, pas sûr.
Nostalgique comme moi, donc j'aime.
Tom Villa.
J'étais extrêmement déçu, la bande-annonce était super, le film était mieux et ça ne donnait pas habitué à ça.
Daniel Morin.
J'ai aimé chacune des minutes de ce film.
Ouais, moi aussi, ça donne envie de bien fixer les beaux moments qu'on a vécu et qu'on aimerait revivre, en fait, c'est ça.
Vous l'avez compris, allez le voir, hein, c'est essentiel ce film, c'est un très 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 bon film, c'est un beau film, c'est bien joué, ça fait du bien voilà, de renouer avec le grand cinéma comme ça, c'était extrêmement agréable. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on dise, Fanny Ardant, d'ailleurs, en sortant de la projection de La Belle Époque ? Vous aimeriez entendre un spectateur dire quelque chose de particulier ?
Non, parce que quand on a beaucoup aimé un film, on est sans voix.
Et vous, Nicolas Bedos ?
Je vais m'aligner sur ma camarade.
Fainéant. Des excuses à présenter, Daniel.
Oui, déjà désolé pour le peuple touristique américain millionnaire et le peuple voyageur russe fortuné. Tous les deux ont été tout bonnement insultés et souillés par Nagui et Nicolas Bedos. Eh oh, ça va pas les gars ? S'attaquer à deux pays qui ont pour chef de guerre Trump et Poutine, c'est pas hyper prudent. Alors désolé pour Nagui, maintenant je me dois de t'avouer que c'est pas une vraie bande originale. Nous ne sommes que des figurants mal payés par France Inter pour te maintenir en vie. Heureusement, l'émission n'est pas diffusée. Je vous rassure. Désolé pour Michael Cohen, homme bon et propre que Nicolas Bedos a proposé à l'adoption. Eh ben, je peux vous avouer que votre famille d'accueil maintenant sera celle de Leïla Kadour Boudadi. Elle a gagné l'enchère en balançant royalement un billet de 20 € sur la table. Mauvaise nouvelle, c'est la bonté, c'est terminé.
propreté aussi et la vertu peut-être. Ouais.
Merci Fanny Ardant. Merci mille fois et bravo. Merci Nicolas Manos. Bravo, c'est une réussite. On vous accueillera, j'espère, pour parler d'OSS 117. On est des fans d'OSS 117. C'est vous qui réaliserez le troisième volet de cette,
ça commence dans une semaine,
de cette saga. Et ben merde pour le tournage et merde pour la sortie de La Belle Époque. Allez le voir au cinéma. On est très en retard, pardon. C'est Philippe Bertrand tout de suite que vous retrouvez pour les Carnets de Campagne. Demain, c'est Yvan Bourdieu, notre invité. Bonjour.
Salut Nagui.